le 7-9 de France Inter. À suivre aussi en vidéo sur franceinter.fr.
Il a remis hier le rapport sur la réforme du bac et sa transformation au ministre de l'Éducation nationale, Pierre Mathiot, est notre invité. Vous pouvez dialoguer avec lui. Bonjour François.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour Monsieur Mathiot.
Bonjour.
Je voulais vous poser une question concernant votre volonté de lier Parcoursup au bac. Donc de prendre en compte les résultats scolaires pour l'orientation post-bac. Et donc finalement, ce qui revient par la porte, malgré les dénégations du gouvernement, c'est la sélection aux universités. Et moi, je suis professeur en lycée en Seine-Saint-Denis. Et quand j'entends ça, plus l'arrivée du contrôle commun, parce que votre première proposition qui fait des partiels réguliers, etc., ça fait plus d'épreuves que le bac actuel. Donc, vu le discours du président et du ministre, ça m'étonnerait que ça soit repris. C'est de manière plus ou moins importante du contrôle continu et une certaine prise du local sur les résultats du bac. Donc, le bac qui rentre dans le Parcoursup et donc l'orientation post-bac, l'arrivée du contrôle continu plus ou moins importante dans le bac, résultat pour nous, en Seine-Saint-Denis, on a très peur pour nos élèves et très peur que la sélection elle, se fasse au détriment de nos élèves.
Merci François pour cet ensemble de questions. Pierre Mathiot.
Donc, tout à l'heure, à la fin, à la dernière question, Nicolas Demorand, j'expliquais que pour moi, évidemment, à mon modeste niveau, il ne s'agissait absolument pas de vouloir sélectionner ou de devoir sélectionner les élèves. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un lien entre le baccalauréat et donc ce qu'on appelle maintenant Parcoursup. C'est tout à fait normal en termes d'information de l'enseignement supérieur, pas en termes de sélection, ça j'y insiste. Ensuite, par rapport au contrôle continu, ben là aussi j'avais un petit peu répondu tout à l'heure. J'ai bien conscience que parmi les propositions que je fais, certaines mettraient un petit peu en cause le caractère, disons, anonyme du baccalauréat, en précisant tout de suite que aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 50% des élèves sont pris dans l'enseignement supérieur dans des filières sélectives sur des critères qui sont tout sauf l'anonymat. Mais effectivement, j'ai conscience de cela. C'est pour ça que dans le rapport, qui est assez long, j'en conviens, je précise les choses à ce propos.
Mais vous entendez l'inquiétude?
Bien sûr que j'entends l'inquiétude, vous savez, monsieur est dans le 9-3 comme on dit, moi j'habite un quartier populaire du sud de Lille, donc les questions se posent également là où j'habite, bien sûr.
Une question, pourquoi êtes-vous hostile à la sélection ?
Je pars du principe que le baccalauréat va continuer à être le premier grade de l'enseignement supérieur. Ça n'y a pas de modification. Donc, dès lors que c'est le premier grade de l'enseignement supérieur, la détention du baccalauréat doit permettre à un élève de pouvoir accéder à l'enseignement supérieur là où il souhaite aller. En revanche, on n'en a pas encore parlé. Moi, je propose de mettre un énorme effort sur la question de l'information, sur l'orientation et la préparation à l'enseignement supérieur quand on est au lycée, avec cette idée qu'un certain nombre d'élèves feront des choix plus éclairés lorsqu'ils rempliront leur dossier sur Parcoursup. Je dis pas qu'ils vont se censurer, mais qu'au moins la régulation vers l'enseignement supérieur se fera dans de meilleures conditions et que donc on n'a pas besoin de sélectionner si on est bien meilleur qu'on est aujourd'hui sur l'accompagnement des élèves et notamment des élèves les plus modestes au lycée par rapport à ce qui va se passer dans l'enseignement supérieur.
Béatrice, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors, moi je suis maman de 3 enfants, dont une fille qui est en 3e. Et la question que je me posais, c'est est-ce que votre modèle, le nouveau bac, n'est pas trop emprunt du modèle Sciences Po, qui semble être depuis l'élection de Macron l'alpha et l'oméga des études. Et j'ai une fille qui est matheuse, qui est beaucoup moins à l'aise à l'oral. Et finalement, je m'inquiète un peu de ce modèle qui privilégie l'oral sur un aspect moins à l'aise à l'oral, tout simplement.
Merci Béatrice pour cette question. Survalorisation de l'oral, Pierre Mathiot, point d'interrogation.
Non, pas survalorisation de l'oral. Je propose qu'il y ait une épreuve qui s'appellerait grand oral. Alors évidemment, madame dit que c'est marqué par Sciences Po. Parce qu'on,
c'est moi, le cas ou pas?
C'est-à-dire que le grand oral, c'est le nom qu'on donne à un exercice que j'avais passé à Sciences Po quand j'étais petit, mais que beaucoup de gens ont passé en réalité. Mais j'appelle ça grand oral pour signaler sa position plutôt symbolique. Je propose que ça pèse 15% du bac. Donc il y a une épreuve orale qui pèse 15% du bac, ça veut dire que tout le reste est à l'écrit. Hein. Donc il ne faut pas non plus penser que tout devient oral, même si en 1808, le bac ne se passait qu'à l'oral, mais on ne va pas remettre le bac de 1808. Après que la jeune fille, la fille de madame, ait des petites difficultés à l'oral, il y a beaucoup d'élèves en France qui sont timides, etc., et qui ont des difficultés à l'oral. Je pense que si dès la seconde, on accompagne et on aide les élèves à se préparer à un exercice oral, je pense que c'est intéressant. Et même quand on est timide, je pense que c'est bien de prendre l'habitude de pouvoir s'exprimer, parce qu'il faudra bien qu'un jour dans la vie, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie citoyenne plus classique, on ait à s'exprimer publiquement.
Alexandra Ben Saïd, puis Sonia Boran.
En attendant, les élèves du lycée, ils ont environ 16 ans. Comment on enseigne l'oral ? À Sciences Po, ce sont des gens plus mûrs, ce sont des plus petites classes. Comment est-ce qu'on enseigne l'oral, l'éloquence à une classe de 35 ? C'est ma première question. Et ensuite, vous avez dit que dans le jury, il y aurait trois personnes, par exemple un journaliste. Est-ce qu'on peut imaginer ce jury d'oral un chef d'entreprise? Et comment vous allez les désigner, ces troisièmes personnes?
Pierre Mathiot.
Alors, bonne question. Hein. Alors, je commence par la...
Merci.
Je commence par la
moyenne.
Je commence par la deuxième question. Là encore, on part des finalités et les modalités ensuite. Finalité, c'est de se dire, c'est bien que dans un jury, ça existe dans les BTS, ça existe dans beaucoup de diplômes, il faut déjà le dire. Donc, c'est bien qu'il y ait une personnalité extérieure qui puisse être dans le jury. Ensuite, on est en train de travailler, alors si la proposition est retenue évidemment, de travailler sur les profils de ces personnes, ça pose un certain de questions. Est-ce qu'il faut qu'elles aient le bac, ces personnes? Est-ce qu'il faut qu'elles aient un âge minimal? Pour le moment, on est sur le principe, on a modélisé le nombre de jours qu'il faudrait pour faire passer 500 000 élèves dans cet oral. Voilà, donc c'est la réponse. On a conscience que ça pose un certain nombre de questions d'organisation, mais au moins le principe de dire il faut qu'il y ait une troisième personne qui soit extérieure. Au début, je pensais à des universitaires. Uniquement des universitaires, justement par rapport au lien avec l'enseignement supérieur. Il faudrait en trouver entre 17 et 20 000. Donc il y aura des universitaires parmi les profils, mais on pense que c'est important d'élargir un peu les profils, mais en s'interrogeant évidemment sur comment on fait. Première question, aujourd'hui, comment on prépare? Il s'agit pas de préparer à l'éloquence, parce que l'éloquence, souvent, c'est un peu creux. On parle pour ne rien dire. Hein. Bon, donc je pense que là, les élèves vont se préparer et vont venir à l'oral avec un sujet sur lequel ils auront bossé pendant un an et demi.
Avec qui? Comment?
Avec leur prof. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les TPE que je propose de supprimer, de remplacer par ce type d'exercice. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le bac techno, il y a un oral sur projet que les élèves préparent avec leurs enseignants et qu'ils présentent à l'oral en fin de terminale. Donc pourquoi est-ce qu'en bac techno, ça serait tout à fait bien et en bac général, ça poserait problème? Peut-être parce qu'en bac général, les élèves sont de milieux sociaux plus aisés.
Sonia Bourane.
Est-ce que votre proposition de réforme du bac peut s'appliquer sans réforme du lycée, sans suppression des filières, puisque les principales combinaisons de majeurs que vous proposez reprennent l'essentiel des séries existantes?
Pierre Mathiot.
Écoutez, je pense que oui, évidemment. Moi, à titre personnel, puisque Nicolas Demorand m'a demandé de parler très librement, donc je parle très librement. À titre personnel, je pense qu'il faut lier les deux et qu'il faut associer. Mais oui, il est tout à fait possible, je pense. Le ministre décidera hein, de dissocier, de faire une réforme du bac allant un peu dans le sens de ce que je propose, même beaucoup dans le sens que je propose, sans nécessairement modifier les séries.
Allez, retour au standard. Bonjour, Rachid.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Voilà, oui, non, mais je suis président d'université et je suis avec intérêt votre débat. Donc, je voudrais simplement dire que nous, à l'université, normalement, nous sommes censés accueillir tous les bacheliers. Effectivement, certains ont des difficultés du fait de certains choix d'orientation qui sont peut-être pas forcément les meilleurs. Et je pense qu'on doit continuer à accueillir tous les bacheliers. Je pense que les attendus, les prérequis, effectivement, c'est une forme de sélection. Et si on ne veut pas que ce soit une sélection qui ne porte pas son nom, il faut des moyens pour pouvoir accompagner les lycéens. Au Mans, avec l'Université d'Angers, nous avons mis en place un projet que nous avons d'ailleurs qui va être financé, où les lycéens vont nous suivre un certain nombre de prérequis, mais avec des financements. Ils pourront passer une licence en 4 ans pour ceux qui ne sont pas préparés, en 2 ans pour ceux qui vont très vite, avec des parcours individualisés, avec des étudiants qui vont dans les lycées donc informer les lycéens, avec du travail avec les enseignants des lycées. Mais c'est un projet qui a été financé par le ministère. Ce que moi je trouve pas normal, c'est qu'on demande à toutes les universités de faire ce genre de choses pour mieux préparer les lycéens, mais sans financement.
Bien compris,
ça,
Rachid.
C'est un vrai problème.
Bien
c'est
compris.
Un vrai
problème. Pierre Mathiot vous répond.
Oui, bien sûr, il faut un certain nombre de moyens. Il faut notamment des moyens parce qu'on est, pour les quelques années qui viennent, face à une augmentation liée à la démographie, une augmentation non négligeable du nombre d'élèves qui arrivent dans l'enseignement supérieur, à peu près 50 à 60 000 de plus par an là pendant quelques années. Bien entendu, je précise quand même aussi que les universités, en termes d'organisation, peuvent s'organiser à moyens, non pas constants, à moyens qui doivent augmenter, mais peuvent s'organiser. Je vais le dire, il y a quand même un certain nombre de facultés qui manquent d'élèves aujourd'hui, qui ont des professeurs qui ont, disons, moins de services qu'avant. Je pense qu'on peut aussi, sur les moyens constants, se réorganiser et permettre de le faire. À titre juste de modeste exemple, l'école que j'ai dirigée, nous comptons que 1700 élèves et nous accompagnons actuellement plus de 1000 élèves de collège et de lycée pour une école qui ne compte que 1600 élèves. Donc je pense que quand on est un peu organisé, on a des financements bien sûr, hein, mais aussi des financements privés, il faut quand même l'avouer, on arrive à le faire. C'est vraiment une question de volontarisme politique des établissements, je pense.
Retour au standard, une dernière question. Jean-Yves, bienvenue sur Inter.
Oui, bonjour. Pardon, moi je suis professeur à l'université de Saint-Denis, par ailleurs ancien conseiller d'orientation. Moi je m'inquiète des conséquences possiblement inégalitaires des projets de réforme en question, en particulier de la montée du contrôle continu. On a un certain nombre de travaux que M. Mathieu ne doit pas ignorer, qui montrent que plus on augmente la part de contrôle continu et plus on augmente les inégalités territoriales. Je pense aux travaux de Fabrice Murat qui est au service statistique du ministère, qui montrent que, par exemple, les notes de contrôle continu sont d'autant plus élevées par rapport aux notes d'examen qu'on est en contexte d'éducation prioritaire. Mmh. Donc je m'inquiète beaucoup de cela, de l'idée que, en fait, augmenter la part de contrôle continu, alors je précise que je suis pas pour le statu quo du baccalauréat, en fait, va augmenter les inégalités entre lycées, entre territoires, et des inégalités beaucoup moins visibles que celles qui existent aujourd'hui, et que, alors qu'on ne veut pas s'attaquer aux inégalités dans l'enseignement supérieur entre, par exemple, les filières sélectives et les filières non sélectives à l'université, on va faire descendre ces inégalités en les rendant beaucoup moins visibles au lycée.
Merci Jean-Yves. Merci Jean-Yves pour cette question à laquelle Pierre Mathieu répond.
En 20 secondes.
30
secondes.
Une minute.
Bon, non, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, les inégalités aujourd'hui entre lycées, elles sont considérables, et entre bacs, elles sont considérables. Donc, ironiquement, j'aurais tendance à dire, c'est difficile de les accroître encore. Donc, l'objectif qui est le mien, et mon parcours, j'espère, personnel, j'espère, peut convaincre une partie des auditeurs, c'est que j'ai pas d'intention cachée d'accroître des inégalités qui sont déjà conséquentes. Voilà, donc au contraire, de tenter de les réduire. Je prétends pas y arriver, mais tenter de les réduire. L'autre point, c'est le contrôle continu. Ironiquement, si le contrôle continu été mis en œuvre. En effet, comme les lycées, disons, des zones d'éducation populaire, d'éducation prioritaire, pardon, notent mieux que les lycées de centre-ville, ironiquement, les élèves des lycées du 9-3 auraient leur baccalauréat avec des moyennes supérieures aux élèves d'Henri IV. Et donc, paradoxalement, vous voyez ce que je veux dire. Donc, après, les élèves que j'ai interrogés lorsque je suis allé sur le terrain, y compris de ces lycées-là, disent « tout le monde sait de quel lycée je viens ». Tout le monde sait de quel lycée je viens, donc assumons-le jusqu'au bout. Mais je termine quand même en disant que je ne prétend pas dans le rapport qu'il faille mettre en place le contrôle continu et uniquement les notes obtenues dans les classes. Je suis beaucoup plus prudent parce que j'ai conscience que c'est compliqué à mettre en œuvre.
Il est 8h55, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de questions au standard. Si vous... voilà, Pierre Mathieu. Alors de deux choses l'une, soit vous revenez demain ou la semaine prochaine, soit vous allez au téléphone.
Je peux remplacer
Frédéric Becbédé dans un dialogue avec les auditeurs.